Voltaire, Dictionnaire philosophique, premier article, la lettre A. On commence à substituer la lettre A à la lettre O dans français, française, anglais, anglaise, et dans tous les imparfaits, comme il employait, il octroyait, il poirait, etc. La raison n'en est-elle pas évidente? Ne faut-il pas écrire comme on parle autant que l'on peut? N'est-ce pas une contradiction d'écrire « oua » et de penser « est » Nous disions autrefois « je crois oua, j'octroie oua, j'emploie oua, je ploie oua ». Lorsqu'enfin on adoucit ces sons barbares, on ne songea point à réformer les caractères et le langage démentit continuellement l'écriture. Mais quand il fallut faire rimer en vers les « oua » qu'on prononçait « est » avec les « oua » qu'on prononçait « oua », les auteurs furent bien embarrassés. Tout le monde, par exemple, disait « français » dans la conversation et dans les discours publics. Mais comme la coutume vicieuse de rimer pour les yeux et non pas pour les oreilles s'était introduite parmi nous, les poètes se crurent obligés de faire rimer « français » à « loi », « roi », « exploit ». Et alors, les mêmes académiciens qui venaient de prononcer « français » dans un discours oratoire prononçaient « François » dans les vers. On trouve dans une pièce de vers de Pierre Corneille, sur le passage du Rhin assez peu connu, « Quel spectacle d'effroi, grand Dieu, si toutefois quelque chose pouvait effrayer des François !» Le lecteur peut remarquer quel effet produirait aujourd'hui ces vers si l'on prononçait comme sous François Ier, pouvait par un autre, quelle cacophonie ferait froid toutefois pouvoir François. Dans le temps que notre langue se perfectionnait le plus, Boileau disait qu'il s'en prenne à sa muse allemande en François. Nous laissons Chapelain pour la dernière fois. Aujourd'hui que tout le monde dit français, ce vers de Boileau lui-même paraîtrait un peu allemand. Nous nous sommes fait enfin défait de cette mauvaise habitude d'écrire le mot français comme on écrit Saint-François. Il faut du temps pour réformer la manière d'écrire tous ces autres mots dans lesquels les yeux trompent toujours les oreilles. Vous écrivez encore « je crois oua ». Et si vous prononciez « je croyais » en faisant sentir les deux o, personne ne pourrait vous supporter. Pourquoi donc, en ménageant nos oreilles, ne ménagez-vous pas aussi nos yeux? Pourquoi n'écrivez-vous pas « je croyais » puisque « je croyais » est absolument barbare? Vous enseignez la langue française à un étranger. Il est d'abord surpris que vous prononciez « je croyais »,« j'octroyais »,« j'employais ». Il vous demande pourquoi vous adoucissez la prononciation de la dernière syllabe et pourquoi vous n'adoucissez pas la précédente. Pourquoi dans la conversation vous ne dites pas « je craignais, j'employais », etc. Et vous lui répondez, vous devez lui répondre, qu'il y a plus de grâce et de variété à faire succéder une diphtongue à une autre. La dernière syllabe, lui dites-vous, dont le sens reste dans l'oreille, doit être plus agréable et plus mélodieuse que les autres, et c'est la variété dans la prononciation de ces syllabes qui fait le charme de la prosodie. L'étranger vous répliquera, « Ah, vous deviez m'en avertir par l'écriture, comme vous m'en avertissez dans la conversation. Ne voyez-vous pas que vous m'embarrassez beaucoup lorsque vous orthographiez d'une façon et que vous prononcez d'une autre ? Les plus belles langues, sans contredit, sont celles où les mêmes syllabes portent toujours une prononciation uniforme. Telle est la langue italienne. Elle n'est point hérissée de lettres qu'on est obligé de supprimer. C'est le grand vice de l'anglais et du français. Qui croirait, par exemple, que ce mot anglais « handkerchief » se prononce « handkerchief » et quel étranger imaginera que « pan, léon » lent, se prononce en français pan et lent. Les idaria, ce sont des faits de la lettre H au commencement des mots, parce qu'il n'y a aucun son, et de la lettre X entièrement parce qu'il ne le prononce plus. Mais que ne les imitons-nous? Avons-nous oublié que l'écriture est la peinture de la voix? Vous dites, mais vous dites anglais, portugais, français, mais vous dites danois, suédois. Et comment devinerai-je cette différence si je n'apprends votre langue que dans vos livres? Et pourquoi, en prononçant anglais et portugais, mettez-vous un A à l'un et un O à l'autre? Pourquoi n'avez-vous pas la mauvaise habitude d'écrire portugois comme vous avez la mauvaise habitude d'écrire anglois? En un mot, ne paraît-il pas évident que la meilleure méthode est d'écrire toujours par A ce que l'on prononce par A? A, troisième personne au présent de l'indicatif du verbe avoir. C'est un défaut sans doute qu'un verbe ne soit qu'une seule lettre et qu'on exprime « il a raison, il a de l'esprit » comme on exprime « il est à Paris, il est à Lyon ». « Il a eu » choquerait horriblement l'oreille si on n'y était pas accoutumé. Plusieurs écrivains se servent souvent de cette phrase, la différence qu'il y a, la distance qu'il y a entre eux. Est-il rien de plus languissant à la fois et de plus rude? N'est-il pas aisé d'éviter cette imperfection du langage en disant simplement « la distance, la différence entre eux » À quoi bon ce « qu'il » et cette « ia » qui rendent le discours sec et diffus et qui réunissent ainsi les plus grands défauts? Ne faut-il pas surtout éviter le concours des deux « a »? Il va à Paris. Il a Antoine en inversion. Trois et quatre A sont insupportables. Il va à Amiens et de là à Arc. La poésie française proscrit ce heurtement de voyelles. Gardez qu'une voyelle à courir trois T ne soit d'une voyelle en son chemin heurté. Les Italiens ont été obligés de se permettre cet achoppement de sons qui détruisent l'harmonie naturelle. Ces hiatus, ces bâillements que les latins étaient soigneux d'éviter, Pétrarque ne fait nulle difficulté de dire « Moves il vecchiere il canuto e bianco del dolce loco ova sua esta fornita. » L'Arioste a dit « Donne sa quelque si amor dove a fortuna la cristiana fede. Tanto il giro che venu a ma riviera, altre al ventura, al buon Rinaldo accede. » Cette malheureuse cacophonie est nécessaire en italien parce que la plus grande partie des mots de cette langue se termine en A, E, I, O et U. Le latin, qui possède une infinité de terminaisons, ne pouvait guère admettre un pareil heurtement de voyelles. Et la langue française est encore en cela plus circonspecte et plus sévère que le latin. Vous voyez très rarement dans Virgile une voyelle suivie d'un mot commençant par une voyelle. Ce n'est que dans un petit nombre d'occasions où il faut exprimer quelque désordre de l'esprit, arma amens capio, ou lorsque De Spondé peint un lieu vaste et désert, et neptum noae geo. Homère, il est vrai, ne s'ajustit pas à cette règle de l'harmonie qui rejette le concours des voyelles et surtout des A. Les finesses de l'art n'étaient pas encore connues de son temps et Homère était au-dessus de ses finesses. Mais ces vers les plus harmonieux sont ceux qui sont composés d'un assemblage heureux de voyelles et de consonnes. C'est ce que Boileau recommande dès le premier chant de l'art poétique. La lettre A, chez presque toutes les nations, devint une lettre sacrée parce qu'elle était la première. Les Égyptiens joignirent cette superstition à tant d'autres. De là vient que les Grecs d'Alexandrie l'appelaient Hier Alpha. Et comme Oméga était la dernière lettre, ces mots Alpha et Oméga signifièrent le complément de toute chose. Ce fut l'origine de la Kabbale et de plus d'une mystérieuse démence. Les lettres servaient de chiffres et de notes de musique. Jugez quelle foule de connaissances secrètes cela produisit. A, B, C, D, E, F, G étaient les sept cieux. L'harmonie des sphères célestes était composée des sept premières lettres. Et un acrostiche rendait raison de tout dans la vénérable antiquité. A, B, C ou alphabet. Prions les savants hommes qui travaillent à l'encyclopédie de nous dire pourquoi l'alphabet n'a point de nom dans aucune langue de l'Europe. Alphabet ne signifie autre que AB, et AB ne signifie rien, ou tout au moins il indique deux sons, et ces deux sons n'ont aucun rapport l'un avec l'autre. Bête n'est point formé d'alpha, l'un est le premier, l'autre le second, et on ne sait pas pourquoi. Alors comment s'est-il pu faire qu'on manque de termes pour exprimer la porte de toutes les sciences? La connaissance des nombres, l'art de compter, ne s'appelle point 1-2, et le rudiment de l'art d'exprimer ses pensées n'a dans l'Europe aucune expression propre qui le désigne. L'alphabet est la première partie de la grammaire. Ceux qui possèdent la langue arabe, dont je n'ai pas la plus légère notion, pourront m'apprendre si cette langue, qui a, dit-on, 80 mots pour signifier un cheval, en aurait un pour signifier l'alphabet. Je proteste que je ne sais pas plus le chinois que l'arabe. Cependant, j'ai lu dans un petit vocabulaire chinois que cette nation s'est toujours donné deux mots pour exprimer le catalogue, la liste des caractères de sa langue. L'un est Hotu, l'autre Haïpien. Bien, nous n'avons ni Hotu ni Haïpien dans nos langues occidentales. Les Grecs n'avaient pas été plus adroits que nous. Ils disaient alpha, bête. Sénèque, le philosophe, se sert de la phrase grecque pour exprimer un vieillard comme moi qui fait des questions sur la grammaire. Il s'appelle Skedon analphabetos. Or, cet alphabet, les Grecs le tenaient des Phéniciens, de cette nation nommée le peuple lettré par les Hébreux mêmes, lorsque ces Hébreux vinrent s'établir si tard auprès de leur pays. Il est à croire que les Phéniciens, en communiquant leur caractère aux Grecs, leur rendirent un grand service en les délivrant de l'embarras de l'écriture égyptiaque que Cécrops leur avait apporté d'Égypte. Les Phéniciens, en qualité de négociants, rendaient tout aisé, et les Égyptiens, en qualité d'interprètes des dieux, rendaient tout difficile. Je m'imagine entendre un marchand phénicien abordé dans l'Achaïe dire à un grec, son correspondant, non seulement mes caractères sont aisés à écrire et rendent la pensée ainsi que les sons de la voix, mais ils expriment nos dettes actives et passives. Mon aleph, que vous voulez prononcer alpha, vaut une once d'argent. Bêta en vaut deux. Rho en vaut 100. Sigma en vaut 200. Je vous dois 200 onces. Je vous paye un rho. Reste un rho que je vous dois encore. Nous aurons bientôt fait nos comptes. Les marchands furent probablement ceux qui établirent la société entre les hommes en fournissant à leurs besoins. Et pour négocier, il faut s'entendre. Les Égyptiens ne commencèrent que très tard. Ils avaient la mer en horreur. C'était leur typhon. Les Tyriens furent navigateurs de temps immémorial. Ils lièrent ensemble les peuples que la nature avait séparés et ils réparèrent les malheurs où les révolutions de ce globe avaient plongé souvent une grande partie du genre humain. Les Grecs, à leur tour, allèrent porter leur commerce et leur alphabet commode chez d'autres peuples qui le changèrent un peu, comme les Grecs avaient changé celui des Tyriens. Et lorsque leurs marchands, dont on fit depuis des demi-dieux, allèrent établir à Colchos un commerce de pelleterie qu'on appela la toison d'or, ils donnèrent leurs lettres aux peuples de ces contrées qui les ont conservées et altérées. Ils n'ont point pris l'alphabet des Turcs auxquels ils sont soumis. et dont j'espère qu'ils secourront le jour grâce à l'impératrice de Russie. Il est très vraisemblable, oh je ne dis pas très vrai, Dieu m'en garde, que ni Tyr, ni l'Égypte, ni aucun Asiatique habitant vers la Méditerranée ne communiqua son alphabet au peuple de l'Asie orientale. Si les Tyriens ou même les Chaldéens qui habitaient vers l'Euphrate avaient par exemple communiqué leur méthode aux Chinois, il en resterait quelques traces. Ils auraient les signes des 22, 23 ou 24 lettres. Ils ont tout au contraire des signes de tous les mots qui composent leur langue. Et ils en ont, nous dit-on, 80 000. Cette méthode n'a rien de commun avec celle de Tyr. Elle est 79 176 fois plus savante et plus embarrassée que la nôtre. Joignez à cette prodigieuse différence qu'ils écrivent de haut en bas et que les Tyriens et les Chaldéens écrivaient de droite à gauche, les Grecs et nous de gauche à droite. Examinez les caractères tartares, indiens, siamois, japonais. Vous n'y voyez pas la moindre analogie avec l'alphabet grec et phénicien. Cependant, tous ces peuples, en y joignant même les Ottantaux et les Cafres, prononcent à peu près les voyelles et les consonnes comme nous, parce qu'ils ont le larynx fait de même pour l'essentiel, ainsi qu'un paysan grisou a le gosier fait comme la première chanteuse de l'opéra de Naples. La différence qui fait de ce manant une basse taille rude, discordante, insupportable, et de cette chanteuse un dessus de rossignol, est si imperceptible qu'aucun anatomiste ne peut l'apercevoir. C'est la cervelle d'un sot qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la cervelle d'un grand génie. Quand nous avons dit que les marchands de Tyr enseignèrent leur ABC aux Grecs, nous n'avons pas prétendu qu'ils eussent appris aux Grecs à parler. Les Athéniens, probablement, s'exprimaient déjà mieux que les peuples de la basse Syrie. Ils avaient un gosier plus flexible. Leurs paroles étaient un peu plus heureux assemblage de voyelles, de consonnes et de diphtongues. Le langage des peuples de la Phénicie, au contraire, était rude, grossier. C'était des chafrodes, des astarodes, des chabaotes, des chamèmes, des cholets, des trophètes. Il y aurait là de quoi faire enfuir notre chanteuse de l'opéra de Naples. Figurez-vous les Romains d'aujourd'hui qui auraient retenu l'ancien alphabet étrurien et à qui des marchands hollandais viendraient remporter celui dont ils se servent à présent. Tous les Romains feraient fort bien de recevoir leur caractère, mais ils se garderaient bien de parler la langue batave. C'est précisément ainsi que le peuple d'Athènes en usa avec les matelots de Caphtor, venant de Tyr ou de Bérynithe. Les Grecs prirent leur alphabet, qui valait mieux que celui du Misraïm, qui est l'Égypte, et rebutèrent leur patois. Philosophiquement parlant, et abstraction respectueuse, faite de toutes les inductions qu'on pourrait tirer des livres sacrés, dont il ne s'agit certainement pas ici, la langue primitive n'est-elle pas une plaisante chimère ? Que diriez-vous d'un homme qui voudrait rechercher quel a été le cri primitif de tous les animaux et comment il est arrivé que dans une multitude de siècles, les moutons se soient mis à bêler, les chats à miauler, les pigeons à roucouler, les linottes à siffler. Ils s'entendent tous parfaitement dans leurs idiomes et beaucoup mieux que nous. Le chat ne manque pas d'accourir au miaulement très articulé et très varié de la chatte. C'est une merveilleuse chose de voir dans le mire-ballet une cavale dresser ses oreilles, frapper du pied, s'agiter au braiement intelligible d'un âne. Chaque espèce a sa langue. Celle des Esquimaux et des Algonquins ne fut point celle du Pérou. Il n'y a pas eu plus de langue primitive et d'alphabet primitif que de chênes primitives et que d'herbes primitives. Plusieurs rabbins prétendent que la langue mère était le samaritain. Quelques autres ont assuré que c'était le bas-breton. Dans cette incertitude, on peut fort bien, sans offenser les habitants de Quimper et de Samarie, n'admettre aucune langue mère. Ne peut-on pas, sans offenser personne, Supposez que l'alphabet a commencé par des cris et des exclamations. Les petits enfants disent d'eux-mêmes « Ah, hé !» quand ils voient un objet qui les frappe. « Hi, hi !» quand ils pleurent. « Ouh, ouh, ouh !» quand ils se moquent. « Aïe !» quand on les frappe. Il ne faut pas les frapper. À l'égard des deux petits garçons que le roi d'Égypte, Psammeticus, qui n'est pas un mot égyptien, fit élever pour savoir quelle était la langue primitive, il n'est guère possible qu'ils se croient tous deux mis à crier « bec, bec » pour avoir à déjeuner. Des exclamations formées par des voyelles, aussi naturelles aux enfants que le croassement l'est aux grenouilles, il n'y a pas si loin qu'on croirait à un alphabet complet. Il faut bien qu'une mère dise à son enfant l'équivalent de « Viens, tiens, prends, tais-toi, approche, va-t'en ». Ces mots ne sont représentatifs de rien, ils ne peignent rien. Mais ils se font entendre avec un geste. De ces rudiments informes, il y a un chemin immense pour arriver à la syntaxe. Je suis effrayé quand je songe que de ce seul mot « viens », il faut parvenir un jour à dire « Je serais venu, ma mère, avec grand plaisir, et j'aurais obéi à vos ordres qui me sont toujours chers, si en accourant vers vous je n'étais pas tombé à la renverse, et si une épine de votre jardin ne m'était pas entrée dans la jambe gauche. » Il semble à mon imagination étonnée qu'il a fallu des siècles pour ajuster cette phrase, et bien d'autres siècles pour la peindre. Ce serait ici le lieu de dire où le tâche est de dire, comment on exprime et comment on prononce dans toutes les langues du monde, père, mère, jour, nuit, terre, eau, boire, manger, etc. Mais il faut éviter le ridicule autant qu'il est possible. Les caractères alphabétiques présentant à la fois les noms des choses, leurs nombres, les dates des événements, les idées des hommes, devinrent bientôt des mystères aux yeux même de ceux qui avaient inventé ces signes. Les Chaldéens, les Syriens, les Égyptiens attribuèrent quelque chose de divin à la combinaison des lettres et à la manière de les prononcer. Ils crurent que les mots signifiaient par eux-mêmes et qu'ils avaient en eux une force, une vertu secrète. Ils allaient jusqu'à prétendre que le nom qui signifiait puissance était puissant de sa nature, que celui qui exprimait ange était angélique, que celui qui donnait l'idée de Dieu était divin. Cette science des caractères entra nécessairement dans la magie. Point d'opération magique sans les lettres de l'alphabet. Cette porte de toutes les sciences devint celle de toutes les erreurs. Les mages de tous les pays s'en servirent pour se conduire dans le labyrinthe qu'ils s'étaient construit et où n'était pas permis aux autres hommes d'entrer. La manière de prononcer des consonnes et des voyelles devint le plus profond des mystères et souvent le plus terrible. Il y eut une manière de prononcer Jéhovah, nom de Dieu chez les Syriens et les Égyptiens, par laquelle on faisait tomber raide un homme mort. Saint Clément d'Alexandrie rapporte que Moïse fit mourir sur le champ le roi d'Égypte, Néchèphre, en lui soufflant ce nom dans l'oreille, et qu'ensuite il le ressuscita en prononçant le même mot. Saint Clément d'Alexandrie est exact. Il cite son auteur, c'est le savant Artapan. Qui pourra récuser le témoignage d'Artapan? Rien ne retarda plus le progrès de l'esprit humain que cette profonde science de l'erreur, née chez les Asiatiques avec l'origine des vérités. L'univers fut abruti par l'art même qui devait l'éclairer. Vous en voyez un grand exemple dans Origène, dans Clément d'Alexandrie, dans Tertullien, etc. Origène dit surtout expressément « Si en invoquant Dieu ou en jurant par lui, on le nomme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on fera par ces noms des choses dont la nature et la force sont telles que les démons se soumettent à ceux qui les prononcent. Mais si on le nomme d'un autre nom, comme Dieu de la mer brouillante, Dieu supplantateur, ces noms seront sans vertu. Le nom d'Israël, traduit en grec, ne pourra rien opérer. Mais prononcez-le en hébreu avec les autres mots requis, vous opérerez la conjuration. Le même Origène dit ces paroles remarquables. Il y a des noms qui ont naturellement de la vertu, tels que ceux dont se servent les sages parmi les Égyptiens, les mages en Perse, les brahmanes dans l'Inde. Ce qu'on nomme magie n'est pas un art vain et chimérique, ainsi que le prétendent les stoïciens, les épicuriens. Le nom de Sabaoth, celui d'Adonaï, n'ont pas été faits pour des êtres créés, mais ils appartiennent à une théologie mystérieuse qui se rapporte au Créateur. De là vient la vertu de ces noms quand on les arrange et qu'on les prononce selon les règles, etc. Et c'était en prononçant des lettres selon la méthode magique qu'on forçait la lune de descendre sur la terre. Il faut pardonner à Virgile d'avoir cru ses inepties et d'en avoir parlé sérieusement dans sa 8e églogue. Carmina vel caelo possunde ducere lunam. On fait avec des mots tomber la lune en terre. Enfin, l'alphabet fut l'origine de toutes les connaissances de l'homme et de toutes ses sottises.